Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Dans ce podcast, je reçois Elsa Angelini et Pietro Gori, enseignants-chercheurs à Télécom Paris, qui travaillent tous deux sur l'IA appliquée à l'imagerie médicale. L'enjeu de l'accès aux data est considérable dans ce domaine de l'imagerie, d'autant que les données y sont plutôt rares. On va parler, dans ce premier épisode, des ressources dont vous disposez, mais aussi de la façon dont vous adressez ce problème de manque de données pour entraîner les algorithmes d'IA. On va commencer avec toi, Elsa. Alors, est-ce que tu peux nous dire, tout d'abord, pour bien cerner le sujet, ce que l'on entend par data en imagerie médicale ?
En imagerie médicale, on a la chance de travailler sur plusieurs types de modalités qui sont très différentes. Les principales modalités, ce sont les IRM, la radiographie et la version tridimensionnelle qui s'appelle en français les scanners, en anglais on parle de CT, et l'échographie, voilà, principalement. Il y a aussi l'imagerie nucléaire sur laquelle on a été amené à travailler un peu. Et puis maintenant, il y a de plus en plus aussi de ce qu'on appelle l'imagerie optique qui sert aussi à étudier l'intérieur du corps humain et faire des diagnostics.
Ça, c'est pour les données d'imagerie médicale, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a bien d'autres sources de données que celle-là.
Tout à fait. En fait, le reste des données s'appelle les metadata qui viennent avec les images et qui peuvent inclure plusieurs types de données. Alors, les plus classiques, c'est avoir les informations sur le patient telles que l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, etc. Mais il y a aussi des données plus complexes, des dosages sanguins par exemple, qui peuvent venir avec les images. Ou alors même, de plus en plus, on s'oriente vers des données vraiment très complexes qui vont être tout ce qui est marqueurs génétiques et protéomiques. Et donc nous, de plus en plus dans notre domaine de recherche, on est amené à vraiment d'abord travailler avec des données de plus en plus hétérogènes. Donc avoir une connaissance qui va au-delà de la physique des images médicales, qui est déjà assez vaste. Mais en plus de vraiment réfléchir à comment on va intégrer ces données dans les algorithmes, encore une fois, et dans la façon dont on formule le problème qui nous est posé et comment on va ensuite le résoudre.
Et donc, il y a toutes ces données, mais il y a aussi les annotations. Un algorithme d'IA n'a pas seulement besoin d'images et de variables cliniques, il a aussi besoin d'annotations de ces images médicales qui lui indiquent, par exemple, où est la maladie et quel sujet est malade ou est sain. Peux-tu nous en parler ?
Effectivement, donc dans la phase de montage, encore une fois, notamment de nos jours dans tout ce qu'on appelle les approches d'apprentissage statistique et plus globalement d'IA, il y a deux enjeux qui se posent. D'abord, c'est travailler pas seulement sur une image, mais sur des cohortes d'images qui nous permettent d'apprendre vraiment sur une population assez diversifiée ce qu'est, par exemple, un certain type de tumeur et comment aller, par exemple, la détecter à l'intérieur du corps. Et ensuite, les annotations. Alors, d'abord, sur l'aspect des cohortes, ce qui est assez intéressant et ce qui est aussi pareil, représente plusieurs enjeux et qu'il n'y a pas un seul type de cohorte, il y en a plusieurs. Et nous, on est amené pareil à réfléchir très en amont sur est-ce qu'on a envie de s'attaquer et d'aller chercher des cohortes rétrospectives ou prospectives, c'est-à-dire travailler sur des choses qui ont déjà été acquises mais les réutiliser pour autre chose. Ou alors vraiment construire, par exemple, avec une équipe de médecins, une série d'acquisitions qui vont être très propres, qui vont être bien ciblées sur une population de patients, etc. Donc, ça s'appelle des prospectifs. Et ensuite, il y a deux types de cohortes aussi qui existent déjà, qui sont ou qui sont amenées à être construites, qui sont soit des registres, soit des cohortes cliniques. Alors là, l'intérêt des registres, c'est que ce sont des cohortes déjà nettoyées, en fait, donc qui ont déjà été préparées pour être accédées plusieurs fois par plusieurs équipes de chercheurs et partagées. Et donc, elles sont nettoyées, ça veut dire, il y a plein d'aspects de format, de données, etc., qui sont importants, mais aussi qui sont anonymisées. Et ça, évidemment, c'est essentiel pour tout accès par des chercheurs. L'autre partie, c'est les annotations, parce qu'une fois qu'on a la cohorte, il faut aussi être sûr qu'on a les bonnes annotations dont on a besoin pour les images. Les annotations, il y a deux types. Globalement, c'est soit du contourage ou des petits points de marqueurs qui indiquent, par exemple, là où la lésion dans le cerveau ou là où la tumeur dans l'abdomen. Soit c'est plus au niveau de l'image elle-même. Et justement, là, on revient aux metadata. On nous dit juste que dans l'image, il y a la présence d'une lésion pancréatique. Et on n'en sait pas plus, par exemple. Donc ça s'appelle des annotations de bas niveau ou de haut niveau. Et tout ça est très chronophage, quoi qu'il arrive à préparer et à structurer. Ça demande beaucoup de temps d'expert pour le contourage, ou alors ça demande même de l'interopérabilité entre bases de données si on veut aller avoir des annotations au niveau fiable. Et donc, c'est rare et c'est cher. On fait des progrès dans les outils d'annotation qu'on fournit aux médecins pour qu'ils aillent plus vite et qu'ils puissent faire ça plus rapidement. Mais quoi qu'il arrive, nous aussi, en fait, pour préparer l'avenir... de façon un peu robuste, on réfléchit de plus en plus à des algorithmes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'annotations bas niveau, ou alors qui ont besoin que d'annotations haut niveau pour faire le même diagnostic et ou fournir la même assistance au médecin, par exemple, qui est la même valeur, mais avec moins d'annotations, ou moins détaillées.
Il y a ce sujet d'avoir recours à moins d'annotations, et puis globalement, Pietro, il y a aussi le sujet du manque de données pour faire travailler l'intelligence artificielle, pour la faire progresser. Pour entraîner les algorithmes, on a besoin de beaucoup de data, or l'IA appliquée à l'imagerie médicale souffre justement d'un manque de données. Pietro, peux-tu nous parler de ça ?
L'intelligence artificielle et plus particulièrement, je dirais, l'apprentissage, aujourd'hui on entend beaucoup le terme « deep learning », a besoin de beaucoup de données. Donc la donnée est devenue une ressource très chère, très importante. Donc en imagerie médicale, on a peu de données. Déjà, ça c'est le premier point de départ. Et comme justement Elsa a rappelé, c'est aussi difficile d'accéder à ces données parce qu'on a plusieurs bases de données. On ne peut pas accéder à toutes les bases de données pour des questions de sécurité, de privacy. Donc la question qu'effectivement beaucoup de chercheurs se posent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de données. Il y a une deuxième question qui, je pense, est très spécifique à l'imagerie médicale, toujours liée au manque de données, qui est la diversité et les biais de données. Donc, évidemment, on voudrait créer des algorithmes d'IA et d'apprentissage qui peuvent être généralisés à toute la population humaine, donc à une grande diversité. Mais ce qui se passe en pratique, comme Elsa le rappelait, c'est qu'on a des petites cohortes, donc des petits jeux de données, et qui souvent sont par exemple acquis dans un seul hôpital, avec un seul protocole, une même machine. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet site, c'est-à-dire que l'algorithme d'IA est entraîné sur un jeu de données très spécifique. Et donc ça veut dire qu'il y a une certaine performance sur ce site-là, mais si on est amené à l'utiliser sur d'autres sujets qui viennent d'autres hôpitaux, ça ne marchera pas, n'aura pas la même performance parce qu'il a appris sur un jeu de données très précis. On parle de biais de données dans ce cas-là. C'est un vrai enjeu, c'est un vrai problème et c'est aussi une de nos activités de recherche, donc de déjà trouver les biais, parce qu'on ne les connaît pas souvent tout le temps, et une fois qu'on les a identifiés, essayer de les éliminer dans ces algorithmes.
Et toi, Pietro, comment réfléchis-tu à cette problématique ?
Avec Elsa, nous faisons partie de l'équipe Image, ici à Télécom Paris. Et nous sommes sollicités par des hôpitaux et des industriels, surtout donc, pour développer des algorithmes qui soient plus efficaces et robustes. Donc plus efficaces dans le sens qui utilise de moins en moins d'annotations et des données, comme on vient de parler, et plus efficaces dans le sens que, par exemple, dans les hôpitaux, la plupart du temps, les données ne peuvent pas sortir. Donc ça veut dire que les données doivent être analysées à l'intérieur de l'hôpital. Or, les hôpitaux n'ont pas de grands serveurs de calcul. Et donc, c'est là l'efficacité, c'est là qui devient important. Donc nos algorithmes d'IA doivent pouvoir être déployés à l'intérieur des hôpitaux parce que les données ne peuvent pas sortir. Et donc, ils doivent être efficaces. Il y a aussi une spécificité de notre équipe qui est très importante. Donc, nous sommes à Télécom Paris, dans une école d'ingénieurs. Nous ne sommes pas ni dans une grande université comme à l'étranger, donc associée à une faculté de médecine. Et nous ne sommes pas non plus une équipe IRIA ou CNRS qui est à l'intérieur, par exemple, d'un hôpital. Nous travaillons avec beaucoup d'hôpitaux sur plusieurs applications cliniques. Donc, notre cœur, c'est vraiment de développer des méthodes d'analyse d'images, d'interprétation d'images, d'IA, d'apprentissage, pour que ce soit donc robuste et efficace, pour qu'il puisse être appliqué à plusieurs applications cliniques avec plusieurs partenariats, à la fois des hôpitaux et des industriels. Donc, déjà, c'est un peu notre spécificité, je dirais, par rapport à d'autres équipes qui travaillent dans ce secteur.
Et sur ces questions d'accessibilité de la data, quel est le contexte international et est-ce qu'il y a des modalités d'accès variables aux données ? Quels sont les pays les plus en avance sur le sujet ?
En fait, à l'international, il y a plusieurs niveaux de maturité, on va dire, de création de registres de données médicales et aussi de structuration à des niveaux grande échelle, par exemple national. Ce qui est assez important, Vu l'importance pour nous d'avoir encore une fois une population très diversifiée, des sources d'images qui viennent de différents hôpitaux, etc. Donc ça, c'est évidemment, c'est pas, on a besoin là d'un pilotage au niveau national, ce qui commence à émerger en France, mais ce qui s'est déjà fait dans d'autres pays qui sont plus avancés que nous. Donc par exemple, on peut citer encore une fois UK Biobank en Angleterre, qui couvre vraiment la population anglaise globalement, à travers tout le pays, et qui les suit depuis plusieurs années maintenant, et qui régulièrement acquiert une batterie d'examens, dont des examens d'imagerie, sur ses participants volontaires, qui sont tout le monde, à partir de la majorité en Angleterre. Et ça, ça a généré un nombre de papiers très importants et de progrès très importants sur la compréhension de maladies, mais de maladies chroniques notamment, telles que tout ce qui est maladies cardiovasculaires et les liens avec aussi des problèmes complexes tels que l'exposome, l'effet de, par exemple, de la pollution ou de l'endroit où on vit par rapport à l'évolution ou l'émergence de différentes pathologies. Donc ça, c'est voilà, un très, très très bel exemple qui est félicité par tout le monde, ça a très bien fonctionné. Et ils ont commencé il y a quelques années. Il y a des pays qui sont structurés comme ça à l'échelle nationale depuis plusieurs années, comme le Danemark, et on n'est pas forcément au courant qu'au Danemark, voilà, la population entière a ses données vraiment structurées, a priori, dès le passage à l'hôpital, enregistre pour pouvoir être accédé pour des projets de recherche. Et puis, il y a les États-Unis qui sont où le NIH a investi énormément d'argent et depuis plusieurs années aussi à financer, pareil, des cohortes de recherche ou des registres qui vont pouvoir être réutilisés par les équipes de chercheurs qui en font la demande et voilà, qui sont acceptés ensuite dans des protocoles d'accès assez simples.
Et plus précisément, comment cela se passe-t-il en France et est-ce que c'est aussi dynamique ?
Il y a eu des appels à projets récemment, notamment au niveau de l'Europe, qui visaient exactement ça, qui étaient vraiment autour de la data, de la santé. Une des actions qui était prévue, c'était de structurer la donnée, et notamment avec l'idée aussi éventuellement d'impliquer des industriels, petits et moyens éventuellement, pour qu'ils viennent en soutien à tout l'effort que ça demande derrière en niveau de la structuration, la création de ces bases de données, trouver les bons clouds bien protégés qui puissent recevoir ces données, etc. Tout l'aspect un peu organisation informatique du support autour, qui souvent, évidemment, échappe complètement aux hôpitaux, enfin, à des gens dont ce n'est pas du tout le cœur de métier. Donc, il y a eu ça, il y a eu ces efforts-là au niveau européen, et il y a aussi, oui, il y a des projets en cours pour essayer de structurer, offrir, pareil, des clouds européens, hébergeurs de données de santé, qui soient ensuite accessibles de plus en plus facilement par nous. Mais c'est plus, je pense, là, l'effort national qui est assez important. Et en France, encore une fois, il y a le HDH là, qui essaye vraiment depuis quelques années d'animer ce genre d'effort, de le commencer, de structurer et de lancer la dynamique nationale, ce qui est super. Et puis, il y a des initiatives aussi d'associations. Par exemple, nous, on a la chance d'être dans le Paris-Saclay Cancer Cluster où, dedans, 30 millions va être investi dans la data, en mettant l'argent dans les hôpitaux pour que justement ils structurent et nettoient leurs données et la rendre accessible à toute une communauté nationale de chercheurs et d'industriels soutenant et développant des nouvelles solutions pour l'innovation et pour les nouvelles thérapies contre le cancer en France. Donc sur une population française qui est très très importante.
Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un second épisode pour approfondir avec nos chercheurs la façon dont ils travaillent sur ces questions d'IA appliquées à l'imagerie médicale et quels sont les résultats obtenus et attendus.